Bonjour, c'est Bapla qui aujourd'hui va s'intéresser aux émotions. Les émotions sont des acteurs importants de notre vie. Peut-être sont-elles les acteurs principaux de ce qui nous arrive. Signe des temps, on parle de gérer nos émotions, il y a même des coachs pour le faire. Mais qui sont-elles? Que nous apportent-elles? Où nous amènent-elles? Pourquoi faut-il les gérer? Pour en savoir plus, Bapla a choisi de vous en parler du point de vue de la relation de nos émotions avec notre corps. Nous allons regarder ce qui se passe avec elles, de voir s'il est possible de conserver son équilibre physique et mental. Mais sans elles, nous ne serions pas un être humain. C'est un des signes distinctifs d'avec les autres espèces. Ça ne veut pas dire que les autres espèces, les animaux, n'ont pas d'émotions. Ils ont des émotions, ils les vivent et ils passent à autre chose. Mais l'être humain est capable de se fixer sur son émotion et de rester qu'avec elle et de la laisser se développer, prendre toute la place. Et même si on prend l'exemple de la colère, ils vont pouvoir passer de la colère à la haine, de la haine à envie de tuer et dans un certain nombre de cas, de passer à l'acte. Pourtant, les émotions mal gérées sont aussi à l'origine de l'apparition de quasi toutes les pathologies internes. Alors, qui dit interne dit externe. Donc, effectivement, notre corps peut être perturbé par ce que l'on appelle les pathologies externes, donc les agents externes, qui, dans la majorité des médecines, on va dire, non conventionnelles, sont au nombre donc de 6. Il y a le vent, il y a l'humidité, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a la sécheresse et la canicule. On a pu, pendant ces mois d'été, se rendre compte qu'on a été confronté à de la canicule. Et même pendant le mois de septembre, qui n'est plus un mois de canicule, eh bien, on a quand même eu de la canicule, et c'est dans ce genre de cas où cet agent externe, cet agent pathogène externe, va nous dérégler et peut nous amener, en fonction de notre état de santé, vers une pathologie, hein, quelle qu'elle soit. Et l'objet de cette émission n'est pas de rentrer dans le fonctionnement du physiologique au pathologique. Alors, on revient sur les émotions. Les émotions, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, nous allons regarder du point de vue énergétique. Donc, une émotion, c'est de l'énergie à l'état pur, sans consistance physique, sans odeur ni couleur. Dans sa relation au corps, chacune d'entre elles est liée à ce qu'on appelle une entité fonctionnelle, un organe, qui remplissent des fonctions précises. Je vais les énumérer pour que vous saisissiez bien le mécanisme de l'émotion et où, théoriquement, elle doit aller être gérée. Alors, le poumon, on va prendre 5 entités fonctionnelles. On a les poumons qui permettent l'apport d'oxygène au corps et le rejet du CO2. On comprend très vite que s'il y a une émotion qui est liée au poumon et que cette émotion prend trop de place, eh bien on va dérégler l'apport en oxygène au corps, donc on va mal le nourrir, donc on va créer une faiblesse, et cette faiblesse permettra à tout agent pathogène de venir exercer ses talents. Et si on ne rejette pas le CO2, eh bien ça va être pareil, on va avoir un dysfonctionnement interne. La rate, l'entité rate, commande la transformation des aliments et le transport des nutriments et des déchets. Là aussi, vous comprenez très vite que s'il y a une émotion qui vient perturber le fonctionnement de cet organe, eh bien la transformation des aliments va mal se faire. C'est pour ça que vous avez des gens qui ils mangent et ils ont la diarrhée. Il y en a d'autres, ils mangent et puis brusquement, ils renvoient tout. Mais également, on va le trouver au niveau du transport de ces nutriments, de ces déchets. C'est le cas de la constipation. Lorsqu'il y a une constipation, c'est qu'au niveau de la rate et de l'estomac, puisque c'est un couple, quelque chose ne va pas. Et c'est là aussi la porte soit carrément ouverte, soit potentiellement ouverte à l'entrée d'un agent pathogène. Les reins s'occupent de la croissance du corps. Chez les enfants, c'est très important, puisqu'ils vont connaître une période de 18 ans à peu près, où bien, ils vont grandir, ils vont constituer leur cerveau, et ils vont constituer également les autres parties de leur corps. Ils s'occupent aussi, les reins, de l'évacuation des déchets à travers l'urine et les selles. Donc là aussi, on va retrouver toute une série de dysfonctionnements possibles si l'émotion liée aux reins n'est pas vécue avec calme et avec sérénité. Et si ça monte, il y aura un certain nombre de problèmes. L'entité fonctionnelle suivante, c'est le foie, qui a pour fonction de drainer le sang, de le stocker et de le tenir à disposition des différentes parties du corps. On peut prendre comme exemple le sang des règles chez les femmes, hein, puisque ce sang est d'abord dans le foie et ira dans l'utérus au moment des règles. Il doit alimenter également l'endomètre. Je parle toujours de nos amis qui nous sont chers, toutes ces dames. Et donc, l'endomètre, s'il est mal nourri, au moment de la grossesse, il va y avoir d'autres besoins, il ne pourra pas les remplir et on va trouver tous les dysfonctionnements de la grossesse. Ça peut être la fausse couche, mais ça peut être également certaines parties du corps du bébé qui ne seront pas structurées comme ils auraient dû être. Et la dernière entité fonctionnelle, c'est le cœur. Le cœur, c'est le moteur de la circulation sanguine, sans laquelle il n'y a pas de vie. Hein. À partir du moment où le sang ne circule pas, il n'est pas possible de vivre. Donc voilà les cinq entités fonctionnelles et qui vont être liées à un certain nombre de sentiments. Depuis des temps anciens, au 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, les émotions ont été associées à ces entités organiques. En Occident, nous avons oublié ce savoir. Au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, c'est une des bases de leur médecine encore aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les querelles de chapelle pour savoir quel peuple, plus particulièrement, est à l'origine de cette liaison émotion-corps physique. Parce que là, on va rentrer dans des chamailleries entre la Chine, le Japon, la Corée, etc., etc. Ce qu'il est possible d'affirmer, c'est les principes qui ont été retenus et qui sont encore pris en compte aujourd'hui. Il y a donc cinq grandes émotions liées à cinq entités fonctionnaires. La première de ces émotions, c'est la joie, qui est associée au cœur. La peur, qui est associée aux reins. La tristesse, qui est associée aux poumons. La colère, qui est associée au foie. Et la pensée, à la rate. Elles nourrissent ces fonctions, ces émotions, lorsqu'elles sont vécues normalement, puisqu'on ne peut pas, nous, êtres humains, vivre sans émotions. Elles nourrissent l'entité organique auquel elles sont rattachées. Alors, on va rentrer dans un tout petit peu de détails. On fera peut-être une autre émission, entité par entité. Donc, la joie est associée au cœur. Le cœur, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise, le cœur est considéré comme l'empereur, c'est-à-dire qu'il reçoit toutes les informations concernant le domaine dont il a la charge. Dans la médecine, le cœur a en charge la totalité du corps. Donc, lorsqu'il y a une joie qui nous arrive, c'est le cœur, dans un premier temps, qui va la recevoir et qui doit, lui, la gérer. Ce qui veut dire que s'il y a trop de joie, eh bien, on va voir des gens qui, brusquement, vont se mettre à rire et à perdre le contrôle de leur rire, ou se mettre à pleurer et perdre le contrôle de leurs pleurs. Je pense que vous avez déjà vu ça lors de grandes émotions. Et pourtant, c'est une émotion forte, certes, mais qui rend remplie de bonheur la personne qui est là. Et ensuite, le cœur va avoir une fonction d'aiguillage. C'est-à-dire que les autres émotions qui vont se présenter à l'être humain, toujours de la même façon, c'est le cœur qui va les recevoir. Et si le cœur est dans son état physiologique, eh bien, il ne va pas s'occuper des autres émotions à part celle de la joie qui lui incombe. On parlera un tout petit peu, également un peu de la frayeur qui est associée au cœur. Donc, si on prend la peur, elle est associée au rein. Et face à la peur, on n'a pas 40 choses à faire. Hein. C'est soit on ne se sent pas d'attaque pour affronter la situation, et c'est la fuite, quelle que soit la forme. Si vraiment c'est très physique, on part en courant. Ou alors, eh bien on dit « je suis là et je vais faire face à cette situation ». Et c'est la deuxième possibilité qui est le courage pour affronter la situation et essayer de s'en tirer le mieux possible. On verra dans la suite de cette émission comment on peut essayer d'aborder tous ces problèmes-là. D'ailleurs, vous le savez, c'est les gens qui ont une très grande peur, ça dérègle les reins. On a parlé que les reins gérer l'évacuation des déchets, eh bien, il y a des gens face à la peur qui font dans leurs pantalons. Mais on dit de la même façon, des gens qui ont réussi à équilibrer cet organe, eh bien, qu'ils ont les reins solides. C'est-à-dire que la situation, même si elle est difficile, compliquée, ils y font face et ils trouvent les solutions pour passer à autre chose après cette situation. La tristesse, elle, est associée au poumon. Donc on a vu que le poumon, lui, il avait pour fonction principale, parce qu'autrement on rentrerait dans un cours de médecine, mais ça, c'est pas l'objet. Pour fonction principale, eh bien, de recharger le corps en oxygène, c'est-à-dire de le nourrir, et d'évacuer toutes les toxiques liées au CO2. Et si la tristesse, brusquement, prend le dessus, eh bien, je suis désolé, on n'a pas encore la caméra qui pourrait me permettre de vous montrer le geste que fait le corps. Eh bien, le corps, il va se refermer sur lui-même, se replier et devenir tout rabougri. Ce qui veut dire que le poumon, qui lui doit avoir l'espace pour pouvoir inspirer et expirer, eh bien, il ne va plus avoir cet espace-là. Ce qui veut dire qu'il ne va pas permettre au corps d'évacuer la totalité des déchets et donc du CO2 principalement hors du corps, donc il va en rester, ça veut dire que des toxines s'installent dans le corps, et d'autre part il ne va pas récupérer suffisamment d'oxygène pour constituer une part de l'énergie dont nous avons besoin pour pouvoir vivre. La colère est l'émotion suivante, elle est liée au foie. Et la colère, vous la connaissez, vous avez déjà vu des gens se mettre en colère, eh bien ils deviennent tout rouges, c'est-à-dire que le sang monte à la tête, puisqu'il est à la tête, il nourrit pas le reste, et puis ça va gesticuler, ça veut dire que ça va être un vent interne. Dès qu'il y a des mouvements, ça fait penser aux branches des arbres, et lorsqu'il y a ce vent qui arrive, eh bien, les branches des arbres bougent, des fois se couchent, des fois se cassent. Eh bien, l'homme en colère, il va passer également par cette étape-là. Alors, il y a des mécanismes derrière, éventuellement, lors d'une autre émission, on y reviendra. Il va monter et perdre totalement le contrôle de son corps. On a bien dit que le sang montait brusquement au visage et à la tête, ce qui veut dire que le lieu où on peut essayer de rester lucide, c'est notre cerveau. Mais si brusquement il est assailli par trop d'énergie, lui aussi il perd le pied. Et donc les gens se mettent à crier et vont commencer à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites s'ils avaient réussi à maîtriser cette colère. Et je termine comme cinquième émotion par la pensée. La pensée, elle est associée à la rate, et la pensée, c'est effectivement toute l'activité mentale. S'il y a un dérèglement au niveau de la pensée, c'est-à-dire que l'on pense trop, on va trouver des pathologies internes comme l'insomnie, hein, les gens qui se réveillent à certaines heures de la nuit, eh bien c'est parce qu'il y a une activité trop grande et que, à la fois, le cœur, à la fois la rate, n'ont pas réussi à amener le calme pour passer la nuit et laisser les gens dormir. Mais ça peut être aussi une pensée qui devient obsessionnelle, c'est-à-dire que on va à un moment donné, alors en général c'est lié plutôt à l'âge, et on va dire, tiens, on part de chez soi, on ferme la porte à clé, on monte dans la voiture, on commence à rouler, et puis on commence à se dire, bon, est-ce que j'ai fermé la maison à clé ? Bon, j'ai dû le faire, ouais, j'ai dû le... oui, je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Et puis on roule, la personne roule, et puis je ne suis pas sûr, hein, c'est pas possible, j'ai dû faire une bêtise, etc. Et hop, on fait demi-tour et on va revenir. Et vous avez des gens qui sont comme ça, vous avez dû les observer. Et tout ça indique des émotions qui sont mal gérées et qui créent le déséquilibre de l'organe, ou alors l'organe qui ne remplit pas réellement ses fonctions, c'est-à-dire que là, dans le cas de la rate, elle aurait dû produire suffisamment d'énergie, puisque la rate, à côté, si elle transforme les aliments en nutriments pour qu'on puisse les consommer, et si elle les évacue, eh bien c'est pour créer là aussi l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner normalement. Donc si la rate est déréglée, elle ne produit pas assez d'énergie et ou une énergie de mauvaise qualité, ce qui a pour conséquence de dérégler la rate, et à partir de là, elle va continuer à rester au niveau de ses pensées. Cette approche considère que si une ou plusieurs émotions nous dominent en permanence ou deviennent trop brutales, alors elle est destructrice pour l'organisme et se retourne contre son entité organique. Ça, c'est ce que je viens de balayer assez rapidement. Et c'est à ce moment-là que les pathologies internes apparaissent, c'est-à-dire on va avoir des maladies, on va avoir des intoxications, des pollutions qui peuvent s'installer soit momentanément, si on réagit assez vite, à la fois dans la gestion de notre corps, de nos émotions, soit si on prend les médicaments qui nous sont donnés par le praticien qui s'occupe de nous, ou définitivement, et c'est comme ça qu'on voit au bout d'un certain temps, notamment les cancers qui apparaissent, le temps qu'ils s'installent et qu'ils se développent. C'est pour ça qu'on a aussi des maladies auto-immunes. Quand on dit auto-immune, ça veut dire que le système immunitaire se dérègle et que la réponse à l'attaque externe n'est pas adaptée. Soit elle est trop faible, soit elle est trop forte. On prendra l'exemple des allergies où les gens se mettent à éternuer, se mettent à pleurer, à tousser, certains à cracher. Mais là, le système immunitaire donne une réponse beaucoup trop forte par rapport à l'attaque de la graminée ou du pollen de tel arbre, etc. Ce qui fait aussi qu'une épreuve de la vie, une source de peur, quelque chose qui dérange nos habitudes de vie, selon qui nous sommes, hein, si on est sanguin, on va être vite embêté, on va vite se mettre en colère. Parce que quelque chose nous dérange, on a l'habitude que ça se passe d'une certaine façon, et puis ça ne se passe pas, comme on a l'habitude. Et là, on est sanguin, on monte, le visage rouge. Vous pouvez penser à quel organe est lié cette réaction sanguine. Si on est anxieux, eh bien là, on va commencer à être inquiet, on va faire marcher notre tête, et oui, mais qu'est-ce qui va se passer, ceci, etc., etc., etc. Donc, c'est tout notre champ mental qui finit par être occupé et notre personnalité prend le dessus. J'ai bien dit notre personnalité. C'est-à-dire que on a l'habitude de dire « oui, moi je suis irritable ». Donc ça, c'est colérique, violent, mais c'est ma personnalité. J'y peux pas grand-chose. On verra dans une autre partie de l'émission ou sa suite qu'on peut le voir de notre point de vue. Certains se referment sur eux. Ils ruminent sans arrêt sur le problème qui leur est posé. Mais ils ne s'expriment pas. Ils ne vont pas dire à la personne ou aux personnes qui sont à l'origine de ce problème, de cette épreuve de leur vie. Non, non, là, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Je peux faire ça, etc. Donc, ils ne communiquent pas. Ils gardent pour eux. Ils se renferment. Mais là aussi, je pense que vous devez commencer à comprendre quelle est l'entité fonctionnelle qui est touchée. Certains deviendront fragiles, avec des pleurs faciles, de la fatigue, la perte du goût de la vie. Et là aussi, on va voir que l'énergie à l'intérieur du corps va manquer, et donc la réponse ne va pas être correcte. Ce n'est pas les exemples, les histoires qui manquent autour de nous pour nous montrer la mécanique qui se met en place. Avec sa guirlande de mots, M-O-T-S, de mots, M-A-U-X, et de situations qui s'aggravent, alors que faire ? Comment gérer ces situations pour nous-mêmes ? Comment aider nos proches dans de telles situations ? Nous voilà face à la nécessité, ou pas d'ailleurs, de gérer la situation. Le point de départ auquel il faut penser, c'est de regarder la situation en face et de mettre en perspective ce qui paraît une épreuve insurmontable pour voir de quoi elle est composée, de voir ce que nous pouvons traiter de suite. Parce que même s'il y a une grande catastrophe, qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite là, qui va peut-être arranger qu'une petite chose, mais je vais commencer par là. Et tant que c'est possible. Et ensuite, d'essayer de traiter et ainsi de suite tout ce qui est possible pour qu'il ne reste que ce qui nécessite aide ou rien. Car cette énorme chose qui nous a effrayés n'était en fait qu'un ensemble de situations que l'on pouvait traiter. Et c'est bien le point de départ, parce qu'à partir du moment où on est capable de regarder la chose calmement, c'est-à-dire de sortir de la scène de théâtre qu'est la vie, avec des règles qui nous sont imposées, qu'on s'impose à nous-mêmes quand même. Je dois le faire. Combien de fois on se dit « je dois le faire » alors que d'où vient cette obligation ? Que vont penser de moi les autres ? D'ailleurs, qui sont-ils les autres ? Il y en a tellement beaucoup qui nous ne connaissent même pas. En sortant de la scène de théâtre, d'acteur, on devient spectateur. On regarde sans porter de jugement, simplement. Simplement regarder ce qui est et l'accepter comme tel. Vous voyez, le cheminement, il est tout à fait logique et n'importe quel esprit pourrait rentrer dans ce fonctionnement. Écouter sans répondre aussi. Parce que si on répond tout de suite, si on coupe la parole, de spectateur, on redevient acteur. C'est-à-dire qu'on redevient, on replonge dans les émotions, parce qu'on va obligatoirement vouloir répondre, puis répondre, etc. Et tout ça s'enchaîne. Et en plus, le fait de ne pas répondre immédiatement, ça laisse le temps d'analyser, de comprendre, de faire notre choix calmement. Mais c'est plus facile de dire qu'à faire, car il faut avoir l'énergie nécessaire pour avoir cette attitude. Une énergie puissante à la base des relations humaines. Alors on va employer des grands mots là. Il faut être capable d'avoir un amour altruiste, gratuit, sans rien attendre en retour. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en face. Parce que dans toutes ces grandes oppositions émotionnelles, on ne règle pas des comptes avec quelqu'un. Parce que cet amour altruiste, il sert à calmer vos émotions qui vous dominent pour trouver votre bien-être. Il nous faut savoir aller chercher dans d'autres savoirs, dans d'autres philosophies peut-être, les solutions que nous ne trouvons pas seuls. Par exemple, dans la philosophie taoïste, existe le principe que rien ne peut avoir d'existence sur Terre sans que son opposé complémentaire existe. On peut l'appeler yin-yang, si l'on veut. Mais il faut s'y faire, et les exemples formels qui nous démontrent la réalité sont des milliers. Il n'y a pas de jour sans nuit, c'est une évidence, mais il n'y a pas de nuit sans le jour non plus. Il n'y a pas de froid sans chaud, c'est-à-dire que si on a un sentiment de froid, ça veut dire qu'on peut avoir le sentiment de chaud, et que suivant la situation dans laquelle on est, si on a besoin du chaud, on devrait pouvoir le trouver. Il y a le classique homme-femme, grand thème de complémentarité, s'il en est. Il y a le devant d'une situation, d'une voiture, d'un immeuble, d'un être, mais il y a le derrière aussi, qui n'est pas la même chose. Mais le devant ne peut pas exister sans le derrière. Il y a le bonheur et le malheur. On y reviendra. Il y a les rires et il y a les pleurs. Il y a les états de grâce, mais ils n'existent pas sans les moments difficiles. Et j'aime bien finir comme exemple l'opposition Ubac-Adrette. On n'est pas loin des Pyrénées et j'aime beaucoup ces montagnes-là. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de montagne sans un côté ensoleillé et sans un côté qui est privé de la lumière. Tout au moins, il n'en a qu'une partie. Et on va voir que les deux côtés ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas ces côtés-là, il n'y aurait pas de montagne, la terre serait plate, ça serait bien, bien différent. Il nous faut attendre que le temps passe et nous apporte l'autre face à notre situation. Comprendre que les épreuves de la vie existent et nous permettent d'évoluer si l'on ne se perd pas dans nos sentiments et dans nos émotions. C'était Bapla, la première partie de notre émission sur les émotions. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des avis à donner, vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse bapla@gmail.com. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Mm-hmm.